Esperanza.
Radio Bemba 00.0. Sonica.
Attento. Voilà, bonsoir à tous, auditeurs, auditrices de Fréquence Paris Pluriel qui nous écoutez présentement sur le 106.3. Bonsoir à tous dans le bar pour ceux qui nous entendent et toutes. On va donc vous présenter présentement Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio de la bande FM parisienne, une radio de la bande FM francilienne que vous pouvez donc écouter sur le 106.3. Et radio, station de radio aux colorations fortement très politisées, très communautaires, avec des programmes qui sont du domaine des choses issues de l'immigration, issues de quelques combats, tout ce qui peut être de près plutôt du mouvement social, pour tout ce qui a trait à ces programmes, à savoir la culture, les émissions sociales, les émissions communautaires. On va donc en parler pendant une heure. Et on va pour commencer présenter la radio depuis ses débuts, quel était le projet de départ, l'envie de départ, et quelle était la structuration de départ, avec une des personnes, une des permanentes de la radio, Guy, qui va donc nous dire le but de départ, l'envie de départ de Fréquence Paris Pluriel.
Non, j'ai rien à dire, je suis désolé. Excusez-moi,
tu vas le dire quand même.
Bon, il faut parler. On va présenter la radio rapidement. La radio, c'est une radio qui existe depuis 92, qui est grosso modo l'émanation d'un secteur associatif de lutte sociale et politique qui prend en charge tous des domaines qu'on retrouve sur la grille, notamment à partir de 19h en soirée. Vous avez le DAL, vous avez Ralfron, vous avez toute une série d'assos qui luttent sur des problèmes spécifiques. Que dire sur la création de la radio? L'esprit de la radio,
elle
a été créée en 92, c'est plutôt un esprit de retour sur les radios associatives telles qu'elles étaient prévues au départ, c'est-à-dire des radios qui fonctionnent sur le bénévolat. Le principe est qu'il y a un centre très réduit de gens qui sont là pour faire fonctionner la radio et qui sont salariés dans des conditions très précaires, mais qui organise grosso modo une grille avec 75 émissions et 150 animateurs qui se relaient, des gens donc qui sont militants sur le terrain culturel ou sur le terrain politique, des gens qui sont acteurs dans des communautés de l'immigration parisienne, sans être d'une radio communautaire. On se défend d'être une radio communautaire, le terme communauté même c'est quelque chose qu'il faudrait mettre entre guillemets, parce que on a tendance à penser qu'il y a des disparités, des communautés spécifiques et tout ça, et il y a tout un discours organisé autour de ça. Donc nous, on permet l'expression de ces communautés, mais on veut aussi que ces communautés, elles s'expriment sur leur réalité, sur la réalité de tout le monde, ce qui est une réalité partagée des gens qui sont grosso modo en lutte, en souffrance par rapport à leur devenir et à leur réalité sociale d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était un groupement associatif au départ. Une dizaine d'associations, des gens qui avaient perdu des fréquences dans les années 80 avec toutes les luttes qu'il y a eu pour maintenir un secteur associatif sur Paris. Il y a une grosse concurrence dans les secteurs radio sur Paris et les fréquences commerciales ont pris une grosse part du gâteau qui avait été conquis par le secteur associatif. Pour ceux qui se rappellent du début des radios libres sur la bande FM, on retrouvait que des radios non commerciales sur la bande FM, et puis peu à peu les choses se sont modifiées. Donc en 92, on a essayé de faire revivre l'espace d'une radio associative. Là, ça a pris. Hein. On a une grille largement chargée aujourd'hui. Par rapport à ça, que dire? Les luttes qui se passent aujourd'hui, qui trouvent de l'écho sur notre radio, on peut prendre sur la question internationale, la question de la Palestine, par exemple. On a réussi à faire un certain nombre de duplex avec des radios libres de Ramallah, de Cisjordanie, à Gaza et Ramallah. En ce moment, on essaie de faire un programme qui correspond aussi à ce qui se passe en Algérie, puisqu'il y a des problèmes, il y a un soulèvement populaire en Kabylie que tout le monde a pu suivre, qui ne trouve pas d'écho dans les médias du tout, ni de réponse politique d'ailleurs au niveau du soutien qui pourrait être apporté ici en France à l'insurrection kabyle qu'il y a aujourd'hui. Donc on essaye d'être au plus près aussi des réalités, on essaye aussi de créer, par le fait qu'on ne soit pas commercial, une solidarité entre les individus qui passent par des discours, des solidarités concrètes. L'idée générale de la radio, c'est que sur cette radio, en dehors même de ce qu'on peut entendre sur la fréquence qui représente l'ensemble des diversités qu'il y a, ça porte le nom de Radio Pluriel, donc c'est pas pour rien, c'est aussi un espace social et politique un peu nouveau, dans le sens où se croisent des gens qui n'avaient pas forcément d'intérêt en commun, qui sont issus de communautés différentes, les Kurdes et les Turcs, où il peut y avoir beaucoup d'animosité entre des gens qui font de l'opéra, du hip-hop ou d'autres formes de culture, qui mettent en scène d'autres formes de culture sur la fréquence. On a essayé de rassembler tout ça pour démontrer en premier une chose, c'est qu'on nous tient un discours aujourd'hui de l'incapacité pour des gens de s'approprier, qu'à travers la précarité, il y a des gros problèmes culturels et tout ça. Et on essaye de montrer que ces problèmes sociaux qui sont tout à fait réels, ils ne sont que des problèmes sociaux, qu'on peut très bien les résoudre à partir du moment où il y aurait des espaces de solidarité, des espaces d'expression qui appartiendraient à tout le monde. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de créer pour montrer que le rapport qu'on a avec la société, c'est un vrai rapport conflictuel, parce qu'on pense que les gens du commun ont largement la capacité de s'exprimer, de mettre en forme, de faire de l'art, de faire de la culture, de faire de la politique, et que les modes d'expression aujourd'hui figés dans lesquels on vit et dans lesquels se transporte la société à laquelle on est confronté nous paraissent incapables de révéler ce qu'est la réalité de la vie des gens, simplement la vie sociale, la confrontation politique. Ça veut dire que bon, on retrouve toutes ces diversités sur la radio, que la radio a des difficultés, c'est un peu un colosse au pied d'argile, parce qu'on n'a pas voulu ni faire de publicité, ni rentrer dans des formes de compromis avec des éventuels subventionneurs et tout ça. Donc on n'est pas en situation de pénurie, on équilibre un budget moindre que toutes les radios parisiennes. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de concurrence à l'intérieur de la radio, il n'y a pas de rapport de pouvoir défini qui ferait qu'il y ait des bagarres en permanence comme il y a eu dans tout le secteur associatif ces dernières années, et que la radio est préservée par l'idée qu'il y a une vraie convivialité, un vrai intérêt commun entre tous les gens qui participent à l'expérience. Et quand je dis c'est un colosse au pied d'argile, c'est bien entendu les questions du financement sont posées, et que ça reste un problème à long terme pour la radio. Là, clairement, dans la situation d'aujourd'hui, pour les gens qui connaissent la radio, on a été frappé l'année dernière par la tempête. Il n'y a pas grand monde du point de vue institutionnel, au niveau des ministères, au niveau du CSA, au niveau des collectivités locales qui a voulu nous soutenir. Donc il a fallu qu'on se démerde par nos propres moyens. On a fait une collecte, on a fait un concert, on a réussi à s'en sortir cette année. Et puis dans les mois qui viennent, visiblement, puisqu'on ne souhaite pas du côté du 93 et des collectivités locales du 93 où on était implanté, bien qu'on soit une radio locale parisienne qui émet sur toute la banlieue, comme ces gens-là ne souhaitent pas nous soutenir, très certainement on va partir dans d'autres banlieues dans quelques mois. Donc voilà un peu pour les nouvelles de la radio. Sinon, sur la constitution elle-même, c'était un regroupement d'associations pour des gens qui ont perdu leur fréquence, comme nous, Radio Tomate, l'ancienne Radio Tomate qui émettait sur Paris dans les années 80. Plus un secteur lié à la CNRL, à la Confédération Nationale des Radios Libres, qui était une fédération nationale mais qui n'avait pas de radio sur Paris. Donc ça a donné le projet. Plus un secteur associatif de l'immigration qui n'avait pas trouvé de fréquence parce que le CSA l'avait refusé. Donc on a joint un peu tous ces bouts et puis on a fait fonctionner un outil qui marche. Tant que j'ai la parole, j'en profite pour remercier notre camarade là-bas derrière la technique, Antoine Chao, avec qui on a travaillé sur différentes opérations, parce qu'on est aussi une radio qui peut se permettre de faire des choses que les autres ne peuvent pas. On n'est pas bloqué, on a de la programmation intéressante, mais d'un certain côté on peut faire des opérations ponctuelles comme celle qu'on fait avec Antoine et Manu aujourd'hui, parce qu'il y a la place qu'on est capable de monter. Spécifiquement, on comprend très bien que dans l'univers dans lequel on vit, il y a des gens qui ne sont pas en capacité de produire de la radio de manière régulière, ou même dont c'est pas le but. Donc on est une des radios qui permet cette spontanéité d'ouvrir à des moments des espaces spécifiques à des tas de choses comme ce qu'on fait ce soir.
Alors ça touche là à un autre côté qui est dû aussi au statut associatif de Fréquence Paris Pluriel, qui est cette espèce de pour produire ce discours, cette espèce de laboratoire sonore, un peu laboratoire journalistique même quelque part, de par les démarches qu'on a d'aller faire du son sur des manifestations, sur des événements qui se passent. La démarche est de dire que tout le monde peut avoir un discours, que tout le monde peut mettre en forme ce discours. Après, il y a un vécu radio, il y a une expérience radio qui doit se faire pour bien rendre ce discours au niveau interview, au niveau cadrage interview et au niveau technique. Mais c'est la démarche qui est cette espèce de laboratoire un peu que tout le monde peut apprendre à faire de la radio en faisant. C'est ce qu'offre aussi quelque part le statut qu'on a, quoi.
L'idée qui est derrière ça, c'est l'idée que tout un chacun peut se permettre de parler, de médiatiser le rapport qu'il a avec les autres et tout ça à travers l'expérience de la radio. Ça veut dire, bien entendu, dans les gens qu'on retrouve aujourd'hui sur la grille, il y a une grande majorité de ces gens-là qui n'avaient jamais fait de radio et qu'il a fallu, à l'intérieur de l'entreprise, être une école, même si j'aime pas le terme école, être un endroit où les gens peuvent se former, où il y a de la transmission des savoirs des uns vers les autres. On a aujourd'hui tout un chantier par rapport au numérique, qui sont des nouvelles technologies, qui sont difficiles d'accès d'un point de vue des coûts. Et tout ça, on a fait un gros effort financier l'année dernière pour s'équiper et tout ça, et donc on commence à évoluer au niveau du son. Pour ceux qui écoutent la radio depuis quelques années, ils voient bien que le son a largement évolué ces derniers temps. Ça demande beaucoup d'efforts des uns et des autres, mais ces efforts se font dans le sens où c'est un vrai partage des savoirs qui s'effectue là. C'est pas une notion d'école par le haut où des gens ont une science infuse, viennent diffuser à droite et à gauche leur savoir. C'est des gens qui cherchent à comprendre et à faire. Et puis des gens qui savent un peu et qui partagent dans la convivialité l'espace qui est un espace de liberté pour beaucoup. En termes de programmation, par exemple, les gens qui sont sur la fréquence ont une liberté totale de parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas un comité de censure, un comité de programmation. Bien entendu, les gens qui sont sur la grille, on les retrouve sur des thématiques spécifiques qu'ils doivent respecter. Chaque émission a sa thématique et tout ça. Mais d'un autre côté, une fois qu'il y a un accord avec la direction de la radio sur la thématique visée, les gens s'expriment librement, ils ont toute la latitude pour produire leur propre émission. Pour avoir leurs propres sons musicaux, il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de playlist comme dans les radios commerciales et tout ça. Chacun amène ses sons, ce qui donne une diversité de sons énorme sur la radio qui participe de la pluralité, parce que si on avait une discothèque centrale comme toutes les radios avec une playlist imposée par les majors, on écouterait sensiblement ce qu'on écoute ailleurs. Donc chez nous, on écoute la discothèque des gens, c'est-à-dire ce qu'ils ont chez eux, ce qu'ils écoutent comme musique, ce qui leur plaît comme musique, et il n'y a pas de pression du tout commerciale sur la réalité de l'antenne. Ça fait réellement une radio différente. On peut la critiquer sur le fait qu'elle soit très comme ça hétérogène, qu'il y ait beaucoup de différences, que les uns ne vont pas écouter, toute la radio n'a pas la même tonalité, que évidemment l'émission des Kurdes avait plus écoutée par les Kurdes que les autres. C'est un risque qu'on a voulu prendre. Il y a des gens qui sont des cultures qui sont minorisées, notamment les cultures de l'immigration parisienne, que ce soit l'immigration maghrébine ou les Espagnols, ou peu importe les Comoriens, on peut retrouver sur l'antenne une pléthore de... Il y a 14 émissions de communautés différentes sur l'antenne. Le fait que ces gens-là soient minorisés dans la société d'aujourd'hui, ça participe d'une ségrégation évidente sur laquelle le rapport aux médias est tout à fait évident. C'est-à-dire qu'ils sont exclus du rapport aux médias, ils sont exclus d'une parole qui peut se transporter à l'intérieur de la communauté et au-delà de la communauté, parce qu'on impose aussi que les émissions qui sont gérées par les communautés soient dans les deux langues, c'était dans la langue de la communauté.
Mais justement, pourquoi les deux langues? Est-ce que c'est vraiment 50-50
C'est pas une question de 50-50, c'est une question qu'on sait, nous, et que les communautés savent aussi, que le destin des communautés ici, c'est de pouvoir rendre perceptible aux autres ce qu'est la réalité. Que les gens qui sont venus émigrer ici, dont on nous dit qu'ils sont responsables du chômage ou des conneries comme ça au niveau de l'État ou au niveau des partis politiques, ils participent de la vie sociale de tout un chacun. Nous, on a grandi dans les quartiers avec des gens qui avaient des cultures étrangères et qu'on est en partie nous-mêmes le produit de cette culture. Et qu'on va pas se couper la main, ou qu'on va pas se couper les oreilles, ou qu'on va pas partir dans des délires d'affrontements interculturels et tout ça, et qu'il faut chercher à comprendre pourquoi les gens sont là, pourquoi ils vivent ici, qu'est-ce qu'on a à partager avec eux, et que l'idée que les émissions communautaires soient pas des émissions réservées à la communauté, mais soient des émissions d'une communauté qui peut parler à l'ensemble des gens, du point de vue de ce qui est compréhensible, c'est-à-dire le besoin de s'émanciper, le besoin de lutter, le besoin de vivre des espaces culturels, de s'approprier des espaces, ça participe d'une vraie communauté. Donc ça, c'est une réussite. Il y a des échecs dans la radio c'est pas à 100%, on va pas crier victoire aujourd'hui par rapport à l'expérience de la radio sur tous les fronts. Mais disons que cette réussite et cette assise au bout de 10 ans, parce que ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on a la fréquence, ça permet de penser que vraiment la difficulté qu'il y a du point de vue social, c'est une projection du social, ce que les gens, les puissants disent de la réalité qui s'effectue, et nous on peut démontrer que les choses peuvent se passer autrement, simplement par le respect entre les individus, qu'il y a des cultures différentes, et on nous dit les jeunes des banlieues, le hip-hop, tout ça c'est une culture de rejet, une culture d'affrontement, dans la radio ça se passe pas comme ça. Chacun respecte l'espace de l'autre, même si tu n'écoutes pas l'opéra parce que t'es jeune et t'es plus dans le hip-hop, celui qui fait de l'opéra, il a le droit d'être là, avec sa culture, et lycée de Versailles, comme on dit chez nous, et le contraire. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles à imposer. Plus ça va, plus l'espace radiophonique sur Paris se réduit dans l'aspect communautaire à des radios qui sont spécialisées, telle communauté, d'un côté la communauté juive, d'un côté la communauté arabe, de l'autre côté la communauté de telle et telle. Nous, on a voulu rompre avec ça, mais rompre d'une manière radicale, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une communauté humaine, qu'il y a des spécificités dans cette communauté humaine, et que l'idée de la radio aujourd'hui, c'est que chacun comprenne ce qu'est l'autre et participe dans une dynamique, et pas une dynamique d'acceptation des phénomènes. On n'est pas une radio de tchatch à la SOS racisme ou des trucs comme ça, tout le monde est frère, non. Il y a des vrais problèmes politiques, il y a des vrais problèmes sociaux, on sera du côté de ceux qui luttent. Ça c'est clair, ça veut dire ceux qui remettent en question l'ordre social et tout ça, ils ont la priorité sur l'antenne. C'est une dynamique sur laquelle on a été lancé, dont on comprend bien en plus quels intérêts elle a, parce qu'on voit qu'on n'est pas accepté. Du côté de l'autorité, le CSA et tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, on a fait ce qu'on avait dit qu'on voulait faire. C'est-à-dire que le projet qu'on a déposé au départ correspond à la réalité de la radio aujourd'hui. Mais par exemple, du côté des collectivités locales, du côté d'une forme de reconnaissance, on sait qu'en province, les radios de gauche ou d'extrême gauche sont subventionnées par la mairie, même si elle est de droite, parce qu'il y a un aspect associatif intéressant à l'intérieur du fait qu'il y ait une radio comme ça. On sait qu'ici, sur Paris, c'est la guerre. Ça veut dire, si t'es pas allié à des formes du politique, si t'es pas dans la main de formes de sponsoring, d'une forme de politique, t'auras pas une thune. Nous, on a accepté de vivre sans thune. Ça veut dire, on a accepté des salaires pourris pour les trois permanents, et les gens qui viennent faire les émissions de radio chez nous, ils savent qu'il n'y a pas une thune, et leur avenir social n'est pas lié aucunement à leur activité à la radio. Donc c'est du bénévolat, et c'est du bénévolat pour l'intérêt, le plaisir, la lutte de chacun.
Alors on va creuser là, on parlait des émissions politiques après les émissions dites de familles et de communautés issues de l'immigration. Il faut parler aussi de l'aspect militant et politique de Fréquence Paris Pluriel. Vu qu'on est une radio locale, il faut parler de manière locale des conflits qui s'y passent, même si après ils ont une extension métropolitaine, voire internationale, ce qui est le cas sur la Palestine ou sur la Kabylie. Mais il y a quand même des problèmes sociaux, des problèmes du monde salarié, du monde du travail, du monde du non-travail, l'absence de travail, qui doivent être parlés à la radio. On a toute la pléthore un peu d'organisations, AC, le DAL, Ralfront, diverses émissions de programmes qui parlent de manière très spécifiée de ces programmes-là. On va peut-être un peu creuser cette question-là. La radio est née au moment, grosso modo, où prenaient pied des structures telles le DAL ou Ralfront. On va peut-être pouvoir commencer par parler de Ralfront pour extendre un peu la discussion au monde des luttes.
Ouais, il y a une particularité pour poursuivre sur ta question et sur ce que disait Guy, c'est que on a des émissions où il y a du temps, où il y a de l'espace, et que les émissions sociales et politiques ont toujours le temps, c'est une heure et demie, deux heures, d'exprimer des points de vue, et on n'est pas dans des formats courts où en trois minutes faut dire quelque chose parce qu'après il y a le flash de pub. Et c'est quelque chose qui permet d'entretenir des réflexions, des problématiques, des débats sur l'antenne. Et quels que soient les sujets, là si on parle de la grille un peu politique de l'antenne, quels que soient les sujets abordés, c'est une des particularités de l'antenne que de laisser du temps à la réflexion, de laisser du temps à l'expression des gens qui sont en lutte à ce moment-là.
Mambo nos a gozar.
Juste un mot sur cette question-là. Le choix des formats longs, c'est... Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Pierre, mais le choix des formats longs, c'est d'une part une question de moyens. On pense que ce n'est pas nécessaire de courir après l'actualité parce qu'on n'en a pas les moyens. Il y a pour accéder à des moyens, pour avoir le desk AFP, pour suivre l'actualité, il faut avoir des gens salariés pour travailler sur ces questions-là et des moyens que nous, on n'a pas. Donc si on a pratiqué par des formats longs, ça veut dire que nous, on est l'endroit où on va réfléchir. C'est-à-dire il se passe des événements, ça sert à rien, il y a de l'oppression, on voit très bien les systèmes de domination qui s'exercent à travers le monde ou ici, hein, la mondialisation ou la mondialité, et peut-être Gilles tu pourras dire deux mots de ces questions-là, ça on le sait très bien. On a choisi des formats qui permettent de se décoller des images chocs, du choc, des images qui donnent rien à comprendre à personne. C'est vrai que sur une heure et sur une heure et demie, tu peux mettre en discussion le fondamental des choses. C'est-à-dire un peu d'histoire, de pourquoi les choses elles se passent telles qu'elles se passent, un peu de contenu critique par les acteurs qui peuvent porter les choses. Tout ça, ça peut se permettre de fonctionner si on donne une heure, si on donne une heure et demie d'expression. Sur le format qui est proposé par les radios commerciales ou les radios institutionnelles, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est du prêt-à-penser, où on donne à penser à des gens des choses qui pensent déjà avant et qui rentrent dans la capacité culturelle qu'ils ont d'admettre et de comprendre ces choses-là. Nous, on essaye d'avoir une vision critique et on se donne le temps d'avoir cette vision critique. Voilà.
Quitte même à être, par cette formule un peu dossier, en retard par rapport à la pure actualité, parce qu'il est évident que sur un conflit, genre celui qu'il y a eu en 95, où la grille a été assez bloquée sur cette question-là, mais il peut y avoir des grèves de la SNCF ou des choses comme ça qui sont liées au monde du chômage ou du non-emploi. En faisant cette formule un peu dossier, on peut être en retard sur une pure actualité qui peut être passée deux jours avant et qu'on n'a pas encore eu assez de temps de développer, d'inviter la personne vraiment très adéquate et assez fouillée pour en parler. Mais c'est aussi un choix de poser un peu cette actualité pour en expliquer les fondements sous-jacents un peu, qui vont forcément expliquer après ce qui sera passé au niveau pure actualité, quoi.
Ouais, t'as raison.
Ce qui nous permet, par exemple, d'avoir autre chose comme intervenant, comme penseur, comme sociologue ou comme historien que des Bernard-Henri Lévy, des gens qui réfléchissent sur l'actualité.
Bernard-Henri Lévy, c'est un chercheur, faut pas le...
qui permettent de réfléchir autrement sur l'actualité qu'en 3 minutes avec une somme de banalité. Généralement, les gens qui viennent s'exprimer à la radio sont des gens qui, depuis longtemps, travaillent sur ces dossiers-là et dont la pensée n'est pas possible à se résumer en quelques minutes dans un flash d'info. Quoi.
T'as en partie raison, en partie tort. Parce que le...
Merci.
Non, mais parce que non,
c'est toi le chef. Hein.
Y a pas... Merci. Tiens, paye-moi un demi, c'est ramené tout de suite. Mais non, mais sur cette question-là, le vrai problème, c'est que l'actualité est traitée par des spécialistes, en général. C'est-à-dire que nous, on va pas inverser le domaine des spécialistes. Il n'y a pas des bons et des mauvais spécialistes. Le problème, c'est qu'on pense que les gens du commun, ils ont plus à dire sur les réalités qu'ils vivent et qu'ils supportent que n'importe quel spécialiste. C'est-à-dire des gens qui sont exogènes et qui sont extérieurs des problématiques, qui viennent penser dessus parce qu'ils ont fait des études ou des machins. Nous, on s'en fout de ça, quelque part. Quelque part, quelqu'un qui subit quelque chose ou qui vit un espace social, il doit être capable de s'exprimer sur cet espace social sans avoir besoin d'une référence de la culture par le haut, c'est-à-dire de gens qui sont payés pour penser, qui savent mieux que les autres ce qui se fait dans les quartiers ou dans n'importe quel conflit ou dans n'importe quelle réalité. Sur la question culturelle, c'est exactement la même chose. On va donner la priorité alors qu'on est soumis aux pressions. Vraiment, on est soumis aux pressions. Les maisons de disques qui nous envoient gracieusement beaucoup de disques. La playlist, il faudrait prouver qu'on diffuse ça pour avoir plus, pour avoir moins et tout ça. On s'en fout comme de l'an 40. C'est-à-dire le mec du quartier qui joue de la guitare et qui joue mieux que n'importe quel musicien. Sauf Manu Chao. Merci. Merci pour les... Non, bon. Bref.
Une réaction là-dessus.
Il peut penser mieux, il peut jouer mieux. Il est anonyme, il est quelconque, il n'est pas reconnu dans la société. On le sait, on le voit autour de nous. On l'a vécu dans les quartiers, on sait très bien que les formes d'expression culturelle qui existent dans les quartiers, si on les reconnaissait, si on les valorisait, elles seraient reconnues comme d'un aussi beau niveau que n'importe quelle sous-merde qu'on nous envoie dans les oreilles à longueur de journée sur la bande FM. Donc tout ça, les gens le savent, ça. C'est un principe même. Celui qui a fait qui a pas fait d'études peut savoir mieux quelque chose que celui qu'on a fait pendant des années. Donc ce qu'on veut rendre, c'est essayer de briser cette hégémonie du commercial et d'une vision politique sclérosée et figée sur laquelle des élites doivent parler, doivent être reconnues en permanence comme des gens capables d'analyse, comme des gens... Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Il y a des problèmes. Si on parle des campagnes qu'on mène aujourd'hui, les problèmes internationaux, c'est quoi? C'est des problèmes qui se posent ici. Il n'y a pas de problèmes internationaux en soi. Quand le peuple se soulève en Kabylie, c'est quoi? C'est le fait que des gens ils reprennent du pouvoir par rapport à leur destin. Et c'est ce qu'on souhaite, nous, partout. C'est pas la question de savoir s'il y a des hégémonies politiques qui vont se proposer derrière ça, des mecs qui vont balancer des trucs pour leurs intérêts et tout ça. On sait très bien la reproduction des choses, on sait très bien ce que on l'a vécu, même dans l'histoire même des radios libres porte cette réalité en soi. C'est-à-dire des gens qui vont se déterminer à un moment, ils vont avoir un petit pouvoir, et dès qu'ils vont avoir ce pouvoir, ils vont transformer leur discours et ils vont finir par servir la soupe comme les autres, parce que socialement ils vont être déterminés par les trucs qu'ils font vivre. Donc c'est un truc qu'il faut casser ça.
Par rapport à ça. Mais je crois que s'il y a de fondamental par rapport à l'existence d'une radio comme celle-là, c'est l'histoire de restaurer un espace public qui n'a rien à voir, bien évidemment, l'espace public avec l'espace... Parce qu'on assimile aujourd'hui le public à l'étatique. Alors l'espace public, c'est bien différent de l'étatique. Ça n'a rien à voir. Et je pense que par rapport à ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, prenons-nous, en tant que périphérique, on intervient dans le domaine culturel. Mais par exemple, il ne s'agit pas avec la culture de parler des œuvres, de parler du spectacle de la culture ou des œuvres de l'esprit ou des œuvres qui sont de n'avoir sur les scènes. La culture, c'est de se dire aujourd'hui comment, à partir du moment où on est dans un espace de vie qui devient, où tous les compartiments de la vie deviennent des espaces marchands, comment on redonne vie, souffle à un espace public. Et à partir de là, comment on entreprend de déconstruire toutes ces espèces d'entreprises de légitimation, de la culture, de la politique, qui s'incarnent à travers la figure de l'expertise. Et là, je prends un exemple. Nous, dans les émissions, on peut inviter des grands experts de l'économie, de la science, etc., dans tous les domaines. Mais le problème, il s'agit d'amener ces experts-là à se prononcer, mais pas du point de vue de leur expertise qui fait autorité, mais en leur qualité de citoyen, en leur qualité de protagoniste et de partie prenante de cette vie publique. Donc c'est renverser aussi des situations, c'est pas faire un déni de ce qui existe. C'est aussi, on est obligé de composer avec une certaine forme de situation, d'assises, des statuts symboles qui font aujourd'hui la culture d'aujourd'hui, parce que la culture est référée essentiellement à l'économie, donc il ne faut pas l'oublier. Donc je veux dire, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de quand je parle de dimension culturelle, c'est pas de valoriser la culture par rapport à l'économie, c'est bien de considérer qu'on est dans un système de démocratie de marché qui est devenu la culture dominante. Donc à partir de là, c'est donner à voir des alternatives qui se produisent partout, dans l'éducation sociale, dans le sport, dans les sciences, dans la manière de penser, dans la philosophie, dans les résistances sociales. Et je pense que s'il y avait peut-être une définition à donner à cet espace que constitue Fréquence Paris Pluriel, ce serait de se dire, tout le monde se pose aujourd'hui, mais comment vivre autrement ? Comment vivre autrement qu'avec cette loi du fric, etc., etc. Mais c'est simple la réponse. La réponse, c'est qu'il faut résister à cet état de fait. Et tant on résiste à cet état de fait, et qu'on arrive, on parvient à le faire au prix de difficultés insurmontables et parfois très douloureuses, ben là, on a appris à exister autrement. Et je pense que c'est aussi une leçon qu'il faut tirer de cette radio-là. Et je crois que si les espaces aujourd'hui comme FPP pouvaient se développer, parce que je dis, ce ne sont pas pour moi des espaces de repliement ou comment dire, où une pensée en quelque sorte alternative pouvait coexister en marge du monde actuel. Je pense que c'est un horizon d'attente qu'il y a par rapport à des pratiques de consommation qui sont en train de décevoir tout le monde et qui correspondent simplement qu'à des besoins de masse de marché, pas plus que ça. Et je crois que là, il y a une véritable alternative dans le fait de donner vie à cette infinité de variétés et de différences de discours. Et donc je crois que ça, c'est en tout cas moi, je, en tant qu'intervenant avec les périphériques sur cette onde, je crois que c'est un espace qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un espace qui n'existe pas. Il n'y a que là que ça existe, malheureusement, parce que tout est devenu une espèce de transaction comme ça, marchande, qui, au jour le jour et sans lendemain, quoi.
On va écouter maintenant une illustration sonore de ce qu'on peut écouter au niveau culturel et politique, donc sur le 106.3. C'est parti tout de suite pendant quelques minutes.
Fréquence Paris Pluriel.
Après avoir considéré tous les facteurs de l'affaire, la préméditation et l'absence de circonstances atténuantes, et reconnu l'agression brutale, aggravée de cruauté gratuite, la cour après jugement décide de vous renvoyer au pénitentiaire André, votre exécution par injection mortelle, à une date fixée ultérieurement par le procureur de la République de cet État.
Et c'est beau d'arriver à réconcilier tous ces gens-là, tu vois, autour du cul d'un teckel. Et bon, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je crois énormément à l'individu, voilà. Je crois qu'à la base, on est tous les mêmes, tu vois. Et que c'est trop facile de dire, bon, Hitler, c'était un fou, ou ça n'arrivera plus jamais. Les gens qui étaient fous, ce sont plutôt ceux qui l'ont suivi. Moi, je prophétise la distance comme solution politique. Un petit moment de réflexion tous les soirs et qui me fait renouer avec l'animal qui est à nous. Il y a de nouvelles questions qui se posent aujourd'hui, des questions carrément existentielles, parce que tu vois, avec les progrès de la science, tout ce qu'on nous dit là, tu vois, les progrès et les dérives, mais on voit arriver le clonage, on est à une époque où pratiquement on pourrait vivre 10 000 ans, quoi, si on voulait, enfin si la science continue à progresser, et où par ces dérives, bientôt on crèvera tous parce qu'on est en train de foutre en l'air la planète.
C'est ça. C'est-à-dire que je plaide ce qui est une mythologie qui est sans doute archi faux et c'est sans doute archi trompeur, mais je plaide pour une forme d'art qui sauverait le monde. That's for talking shit. Shut up. mais pas seulement en le décrivant, en bâtissant une utopie. À Rio, dans les rues de Rio, tous ces petits gamins abandonnés, les pivets, c'était des gars et pas de filles. Je vois pas le monde comme quelque chose de brouillon. Je pense que la barbarie, elle est absolument parfaite. Il n'y a rien à lui reprocher. Elle fonctionne parfaitement bien. Mais je pense que, par exemple, vouloir chercher le bien dans ce monde, traquer ce qu'il y a de bien, de positif et d'humain dans ce monde, c'est déjà un exercice un peu schizophrène. C'est vachement dur. Parce que moi, je sais pas. J'imagine comme tout le monde. J'essaye de le décrypter, ce monde, voir comment il fonctionne.
Ouais.
L'art, c'est beaucoup de choses. Et on a beau essayer, je pense, d'effacer une mémoire, on ne peut pas, tant que la mémoire est inscrite dans les monuments, dans l'agencement même des rues d'une ville, dans l'agencement d'un fleuve, qui est la Seine, dont on a forcément canalisé le cours. Donc, toute la géographie humaine porte de toute façon les traces de l'histoire et de la mémoire. Paris porte de toute façon les stigmates d'une histoire. Effectivement, la Seine, elle a charrié les cadavres des Algériens massacrés en 61, le 17 octobre 61. La mémoire collective est aussi quelque chose de très important. Et on a beau détruire un tableau, deux tableaux, brûler quatre livres, etc., il y a toujours une mémoire collective. Elle existera toujours. Pour tuer une mémoire, il faudrait tuer tout, il faudrait tuer l'être humain, en fait, tous.
L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut l'un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes. Car des innocents sont morts ici, victimes du temps là-haut. Pendant trois siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation.
Les hommes en exil ne passent pas leur temps à essayer d'inventer, ils passent leur temps à essayer de rappeler ce qui était le lieu d'origine. Mais ça n'a pas été le cas de ce phénomène africain, et je crois que là encore, c'est dû à cette espèce de déclic où brusquement une humanité en perdition a pensé que c'était l'avenir qui était sa solution et non pas le repli sur le passé. Non pas le retour à l'Europe, mais l'inscription dans ce monde nouveau, quel que soit le monde hostile. C'était là l'enfer, mais c'est dans cet enfer-là qu'il allait fabriquer non pas un paradis, mais un monde humain.
Qu'il m'est pénible d'avoir à donner à mon père le spectacle d'un homme lâche. Mais je dois lui laisser croire que je ne suis qu'un poète et un rêveur. J'écarte ainsi de lui tout soupçon et ne mets pas sa vie en danger. Allons. Pourtant, il est temps d'agir clandestinement.
Toujours.
toujours sur le 106.3
avec Radio Bemba. Donc on est toujours avec les animateurs de Fréquence Paris Pluriel. Alors c'est plutôt le secteur culturel qui est maintenant autour de la table. Si on définit votre activité au sein de Fréquence Paris Pluriel comme une activité de résistance culturelle et politique, est-ce que c'est une définition qui vous convient à tous ?
Oui, forcément. Dû aussi au fait, comme on parlait pour les émissions politiques tout à l'heure, qu'il y a cette notion du temps. Les gens peuvent expliquer leur démarche syndicale, c'est une émission politique militante, mais ils peuvent aussi expliquer leur démarche culturelle, leur démarche artistique, et le positionnement de cette démarche artistique et culturelle, et comment ils la placent dans un combat qui serait, mettons, un combat anti-mondialisation, qui serait un combat du domaine des communautés, des guerres qu'il y a dans différents coins du monde, et quelle position ils ont par rapport à ça, et comment ils réussissent à la retracer dans leur création, quoi.
Christopher.
Je voudrais peut-être faire une précision sur... C'est vrai que peut-être la division par secteur que l'on fait en disant secteur social et politique, secteur musical, secteur communautaire, secteur culturel, c'est une division qui se fait un peu par défaut. Et que je crois que là-dedans, la question de la culture à Fréquence Paris Pluriel, en réalité, elle est transversale à toutes les émissions. Il n'y a pas d'émission culturelle et d'autres qui ne le seraient pas. Je veux dire, il y a un fond commun qui serait peut-être justement une autre définition de la culture, une autre appréciation, une autre vision de la culture. Et il y a peut-être qu'on pourrait faire une distinction en fait aujourd'hui. Et c'est peut-être là l'opportunité, la chance qu'offre Fréquence Paris Pluriel, c'est-à-dire qu'il y aurait une culture du déjà là, une culture des toutes faites, et une culture en train de s'inventer, une culture en mouvement, en train de se faire. Et s'il y a bien un luxe à Fréquence Paris Pluriel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des luxes, mais ça serait au moins celui-ci, c'est-à-dire que c'est un des rares espaces dans lesquels donner à voir, donner à entendre une culture en train de se faire, en train de s'inventer, à travers la pluralité et la diversité de ceux qui y interviennent. Je ne crois pas qu'on puisse dire, en fait, c'est ça qui est toujours un peu difficile en fin de compte, c'est de dire je représente le secteur culturel à Fréquence Paris Pluriel. Je ne me sens pas de représenter le secteur culturel de Fréquence Paris Pluriel. Simplement, je peux essayer de dire ce qui me semble important à Fréquence Paris Pluriel par rapport à une certaine vision, une certaine définition de la culture aujourd'hui, surtout à une époque où de plus en plus on a tendance à marginaliser et à exclure tout un tas de personnes. De la culture justement, pas dans en sens où on dénie à tout un tas d'individus la capacité de produire un certain nombre de choses, de produire une parole, de produire une expression. Je crois qu'aussi ça a été le cas, puisqu'on pourrait parler de ça par exemple, juste pour donner un exemple de la façon dont aujourd'hui on exclut un certain nombre de personnes d'une parole et d'une expression. Je crois que lorsque au départ du hip-hop, on a taxé, on a stigmatisé le rap comme étant non pas une expression artistique, on disait ce n'est pas de l'art, c'est une expression sociale. Ça pose tout un tas de questions et tout un tas de problèmes.
On a dit la même chose du free jazz dans les années 70.
Exactement. Et je crois que là où on peut affirmer quelque chose par rapport à Fréquence Paris Pluriel, c'est le fait de dire aujourd'hui Fréquence Paris Pluriel est un espace pour toutes les cultures en train de se faire, en train de s'inventer.
Alors justement, il y a Michel qui est animateur sur l'émission Musaïque sur Fréquence Paris Pluriel, qui me disait en rantaine, j'aime bien dire en rantaine, ça fait super pro ça, que ce qui t'intéresse vraiment c'est ce droit à l'erreur, ce droit d'être un amateur quand on fait de la radio.
Enfin, amateur, pas forcément. Disons que déjà, ce qu'on peut dire, c'est Fréquence Paris Pluriel, pour paraphraser certains, c'est la voix des sans-voix. Donc, ce qui veut dire déjà beaucoup de choses au rapport de la notion d'humanité. Moi, je tiens beaucoup à ce terme-là, parce que tout simplement, on s'exprime comme les gens qu'on peut croiser n'importe où. On n'a pas besoin d'employer des grandes phrases, des grands mots, etc., pour parler de ce qu'on connaît, ou même de ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs. On est simplement là pour avoir un mode d'expression que les gens vont tout de suite reconnaître, c'est-à-dire que bon, ils vont pas se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, ce qu'ils nous racontent, c'est pas possible. De la même façon qu'il faut aussi bien le dire, c'est que Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio qui fait énormément de direct. Le direct en radio, c'est pas quelque chose qui est sans risque, c'est-à-dire que il peut y avoir des bémols, il peut se passer n'importe quoi, et on est présent, on n'est pas des professionnels effectivement à fond, ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément toujours au top à 100%, mais je crois que la dimension humaine prend tellement le dessus qu'on se rend très vite compte, par exemple nous dans le domaine musical où on officie, on se rend très vite compte que y a énormément d'artistes ou de groupes, des gens qui vont, je sais pas, on a reçu récemment Jamel Alam par exemple, il était allé à France Inter juste avant, quand il arrive chez nous, il est vraiment très très content, c'est une grande bouffée d'air frais, il vient là, il peut amener ses disques, il vient boire un coup et tchatch avec nous. Il peut parler des problèmes, il peut parler justement de ce qui se passe en Kabylie, etc. Alors que sur une radio formatée, il a 3 minutes, on le cible pour parler comme ci, comme ça, enfin, etc. Il n'a pas du tout sa liberté d'expression. Et en plus, il ne peut pas parler forcément de la façon dont il a envie. Donc cette radio permet aussi ça, c'est-à-dire que n'importe qui puisse s'exprimer et se faire comprendre à travers les gens de partout. Tout à l'heure, Christopher parlait du rapport hip-hop et tout ça, et c'est vrai, tu disais c'est un mouvement social, mais aussi politique, parce que par exemple tous les mouvements, toi t'as parlé du free jazz, mais avant ça a été vrai pour le rock aussi. Ça démarre en général par quelque chose qui est rebelle, qui est militant, qui est révolutionnaire, et puis derrière on voit la mainmise de tout ce monde médiatique de fric qui intervient, qui va dans les cités, qui va récupérer n'importe qui pour faire du rap en espérant qu'il va toucher le gros lot et se faire plein de fric. Nous, à Fréquence Paris Pluriel, c'est pas ce rap-là qui nous intéresse. Si on prend ce domaine-là, c'est bien évident que c'est des gens qui auront des choses à dire, qui auront toujours ce rapport militant et ce rapport de terrain et de quartier, quoi. Voilà, donc je pense que la dimension humaine, faut surtout jamais l'oublier.
Ce qui est important de dire aussi, c'est on parle de culture, on parle, on invite des groupes, des auteurs, des écrivains, ce qu'on appelle des artistes, ce que tout le monde appelle des artistes. Il faut se poser la question, qui les propos qu'ils tiennent, qui ça peut toucher et à quel point ça peut les toucher. Alors quand on a fait une émission musicale, littéraire, théâtre ou autre, souvent la critique qu'on a de la part de gens, c'est oui mais les stars ils viennent jamais chez vous, ou alors ils y viennent un an après la sortie de leur album ou autre. Ce que je réponds, c'est faux. Parce qu'on a autant de gens connus que de gens peu connus, voir l'affaire avec Manu Chao qu'on fait toute cette semaine-là, c'est le témoin de ça, c'est que les gens connus, entre guillemets, qui viennent s'entretenir sur Fréquence Paris Pluriel savent que ça va toucher un public qui ne pourrait pas toucher autrement. Nombre de gens connus, chanteurs, des groupes, auteurs, philosophes, chercheurs ou même historiens ou autres, savent très bien qu'ils vont toucher, que s'ils partent sur France Inter, ils vont toucher beaucoup de gens, mais pas beaucoup de gens forcément qui vont aller lire leur livre après, le chercher en bibliothèque ou tout simplement l'acheter, ou acheter le disque ou le louer en bibliothèque. Ils savent qu'ils vont toucher moins de gens sur Fréquence Paris Pluriel parce qu'on émet sur un rayon moindre, etc. Mais ils savent que les gens qui vont toucher seront plus accrochés par le propos et par la recherche de la personne et iront plus louer le disque ou le livre en bibliothèque ou iront plus acheter le livre. Et c'est ça qui est important. Il faut voir aussi qui les propos et à quelle importance ça peut toucher. Même si c'est une star, même si c'est une personne très connue, à quel point ça peut toucher des gens qui savent que cette star, entre guillemets, sur Fréquence Paris Pluriel, touchera autrement moins de gens, mais mieux moins de gens.
Mais justement, par rapport à ça, il y a un truc intéressant, c'est que tu te dis... Aujourd'hui, avec toute l'espèce de trucs masse médiatique, tu te dis il faut absolument toucher le plus de monde possible. Mais je veux dire, à un moment donné, une notoriété du jour est remplacée par une notoriété du lendemain. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut bien se mettre ça dans la tête, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout ça, c'est un spectacle, ça dure un jour, deux jours, trois jours. Ça n'a aucune autre conséquence. Moi, je dis, par exemple, ce qui est intéressant dans une radio comme celle-là, c'est à un moment donné, tu vas approfondir quelque chose. C'est-à-dire que tu trouves en quelque sorte des gens qui vont faire usage de ce que tu dis, qui vont l'utiliser dans le cadre de leur résistance, de leur lutte. Et je veux dire, il vaut mieux avoir trois types qui t'écoutent et qui se disent « paf, voilà, je fais ça, moi, ça m'inspire ça », qu'avoir un million de types mus par des instincts grégaires et qui finalement se trimballent d'un spectacle à l'autre. C'est pas important. Et par exemple, par rapport à cette question de la professionnalité, je trouve ça assez intéressant, parce que bizarrement, aujourd'hui, quand on parle de professionnalité, c'est surtout parce que le type qui est professionnel, il est qualifié par sa fiche de paye. On est bizarrement dans une radio bénévole. Et je pense que c'est pas parce qu'on est dans une radio où il y a beaucoup de bénévolat que bizarrement, ça serait une radio amateur. Parce que je trouve que ce mot est excessivement, dans amateur, il y a aimé ce qu'on fait, bizarrement. Et je veux dire, on voit comme... on peut être un pro et passer son temps à avoir des tas de dispositifs techniques qui te contraignent simplement à formater du vide, hein, et à balancer du vide. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire référence à cette espèce d'émission-là. Bon, on ne va pas en parler, ce n'est pas grave. Hein. Et donc, le problème, c'est que, bizarrement, on confond le professionnalisme avec le fait d'être rémunéré pour un travail. Or, je pense que sur Fréquence Paris Pluriel, au niveau du mixage, au niveau des expériences qui ont lieu entre le son, le mix, la voix, c'est un laboratoire. Et je pense que les gens le font avec peut-être beaucoup plus de professionnalisme que ceux qui se présentent comme les professionnalistes patentés, hein, et qui, en général, simplement occupent l'espace, ce qu'on appelle occuper l'onde. Hein. On n'a pas besoin de dire quelque chose pour occuper l'onde. Et je crois que là, il faut complètement remettre en cause cette idée, je pense, de professionnalisme. Parce que je crois que si on le fait, AFPP, enfin, je ne sais pas, en tout cas, là je parle pour nous qui le faisons, c'est qu'on va essayer d'atteindre à quelque chose de qui percute, quoi, c'est-à-dire quelque chose, paf, une expressivité, quelque chose qui est là. Et je crois que c'est ce à quoi doit aspirer une radio. Malheureusement, la domination de l'argent est telle que dès qu'on a le statut de la fiche de paye ou des trucs comme ça, bon, bah, on dit qu'on n'a pas ça, on dit autrement, on va dire, bon, ce sont des amateurs ou des bénévoles. Tu vois.
Ouais, c'est un peu le rapport aussi entre le fond et la forme, bien évidemment, et nous, on privilégie le fond, donc ce qui ne veut pas dire qu'on va être mauvais sur la forme. Et je crois surtout, c'est qu'on a des vocations qui sont complètement différentes. Donc si on aborde le problème de culturel, la musique, le théâtre, le cinéma et tout ça, il est bien évident que nous, on n'est pas là pour présenter des vedettes, des gens qui, en gros, d'ailleurs, n'ont pas besoin de nous. Donc de toute façon, c'est assez simple, c'est fastoche, on ne va pas se poser le problème. C'est que nous, on a un côté défricheur, découverte, et présenter à des artistes qu'ils méritent, qu'ils pourront écouter nulle part ailleurs et qui leur permettront d'évoluer dans le domaine musical, par exemple. Ce qui veut dire que, par exemple, si on passe beaucoup de gens d'artistes, sauf qu'ils seront connus plus tard. C'est-à-dire que nous, quand ils viennent à FPP, ils ne sont jamais allés ailleurs, ils n'ont pas connu d'autres radios encore, mais c'est des Sergent Garcia, c'est des Trios, c'est tout ça, c'est Manu, bien sûr, c'est tous ces gens-là qui, après, alors là, évidemment, quand ils ont vendu, ils ont venu disque d'or, alors là, toutes les autres radios s'ouvrent pour eux, quoi. Mais nous, notre problématique, elle n'est pas là. Elle est simplement de faire découvrir ce qui est vraiment la musique, ce qui n'est pas dans les formatages, dans le jeu des médias, des maisons de disques et tout ça, quoi.
Alors, il se peut aussi qu'on reçoive sur Fréquence Paris Pluriel des gens qui ne seront jamais connus.
Il y en a.
Il y en a plein. Et peut-être sur cette question-là de qu'est-ce que c'est qu'une alternative et qui n'est pas pensée comme une alternative commerciale. Et dans la littérature et dans la musique, comment vous abordez ces formes culturelles alternatives?
Il y a au moins une chose là-dessus qu'on peut essayer de déterminer. Je crois qu'il y a deux types de quadrillage aujourd'hui. Il y a un quadrillage qui est le quadrillage médiatique dont on vient de parler, et puis il y en a un second qui est le quadrillage académique. C'est-à-dire lorsqu'on prend par exemple le cas de la littérature aujourd'hui, il y a un type de littérature qui caracole dans les hit-parades, etc. Et puis il y a un type de littérature qui est très respectée parce que elle est célébrée dans les académies. Et puis après il y a un tout autre type de littérature qui échappe d'un côté au quadrillage médiatique et de l'autre au quadrillage académique. Je pense que c'est une chose qu'on peut relever un peu dans toutes les formes d'expression et de gestes artistiques. Et pour le coup, par exemple, puisque Hubert est là avec Enjoy Polar, je pense qu'à un moment donné, le roman noir, le polar, est un type de littérature qui, pour l'instant, espérons que ça dure, échappe au quadrillage médiatique et au quadrillage académique. Il y a aussi, quelque chose aussi dans la littérature, par exemple, caribéenne, dans la littérature insulaire, ce qu'on appelle la littérature insulaire, des écrivains qui ne dissocient pas. Le geste littéraire, du geste politique, du geste artistique, du geste social et du geste philosophique. Et s'il y a peut-être un point commun à un ensemble d'émissions sur Fréquence Paris Pluriel, c'est peut-être cette attention particulière accordée à des expressions et des gestes artistiques qui ne vont jamais dissocier ce qui serait de l'ordre du poétique et ce qui serait de l'ordre du politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le médiatique tel qu'il existe, le mass médiatique tel qu'il existe et l'académie telle qu'elle existe ne peuvent pas prendre en compte ces types d'expressions, ces types de gestes, et c'est peut-être tant mieux. Par contre, il y a peut-être un message à faire passer, c'est que lorsqu'on voit toutes les difficultés en termes de survie et de devenir que connaissent des radios comme Fréquence Paris Pluriel, c'est-à-dire ce sont des difficultés qui ne concernent pas la production, parce que la production est d'une richesse inouïe. Il y a 70 émissions, 200 personnes qui participent chaque semaine à l'ensemble des émissions. C'est une richesse inouïe, mais c'est une richesse humaine. Par contre, en termes de richesse économique, en moyen, c'est vrai qu'il y a une précarité relative selon les circonstances, selon les tempêtes, etc. Mais il est quand même assez curieux de voir qu'aujourd'hui, ce type d'espace n'est pas valorisé par tout un tas de personnes qui auraient tout intérêt d'ailleurs à le valoriser. Je pense notamment à certaines institutions, etc., qui ne comprennent pas qu'il y va là d'un intérêt public profond. Et que c'est dans ce type d'espace-là, effectivement, qu'on peut jouer ce rôle de défricheur, de découvreur, de tout un tas de choses nouvelles, émergentes, On est des guetteurs d'émergence, quelque part, Fréquence Paris Pluriel. Et, un guetteur d'émergence est profondément important, surtout à une époque marquée par tout un tas de difficultés, de crises de toutes sortes.
Et pour rebondir sur la question de l'émergence, il faut aussi parler de la forme définitive. C'est-à-dire qu'on n'est pas, un laboratoire sonore, un laboratoire de journalisme, un laboratoire de recherche, donc c'est des formes pas définitives. Et comme par hasard, pour rebondir aussi sur la question de l'alternativité, les artistes pas connus qui viennent s'exprimer chez nous, qui font, mettons pour les émissions littéraires, qui sont la littérature caribéenne, ça a été il y a 20 ans la science-fiction, c'est maintenant la littérature noire ou le polar, ce sont des formes artistiques, sociologiques même, mais des créations qui ne sont pas des créations définitives. Les auteurs peu connus de ces domaines, eux-mêmes peu connus, sont eux-mêmes des gens qui ont une démarche qui n'est jamais définitive. Ils travaillent leur matière. Ça correspond pleinement au discours médiatique, au discours associatif, critique, que nous, on a aussi. Et c'est ça qui est important de souligner, c'est que c'est là que tous ces discours se rejoignent et font une masse et émergent. C'est là aussi l'émergence de ça.
Et juste peut-être une dernière chose, d'ailleurs, c'est pour insister, parce que c'est vrai que l'émission a démarré sur la question politique. Et je crois qu'aussi, à l'origine de beaucoup de combats politiques, il y a d'abord des cris poétiques. Et à un moment donné, par exemple, on voit, comme ça a été le cas dans l'ensemble des mouvements de décolonisation, lorsqu'on prend l'exemple de la négritude, justement, portée par Aimé Césaire, Senghor, Damas, dans le Paris des années 30, dans une Europe fascisante, il y a trois étudiants noirs à Paris qui poussent un cri. Et ce cri aura des conséquences, et c'est d'abord un cri poétique, et ce cri aura des conséquences politiques profondes dans les années qui suivent, etc. Je pense qu'à un moment donné aussi, j'espère qu'à Fréquence Paris Pluriel, on est en train de découvrir les cris poétiques qui donneront lieu à des combats politiques qui auront des conséquences dans les années à venir. Et ces combats politiques, on sait combien ils sont nécessaires aujourd'hui.
Alors, notre espace d'antenne touche à sa fin. Peut-être quelques mots de conclusion des uns et des autres. On a beaucoup parlé de résistance, d'alternative. Est-ce que quel lien vous faites entre la radio et puis ce qui se passe ailleurs? Où est-ce que quelles sont les alternatives en ce moment en France? Quels sont les mouvements? Quels sont les musicaux et politiques qui vous semblent intéressants aujourd'hui? Voilà, c'est une vaste question pour terminer.
Ce dont on parle, forcément, ce dont on parle. Donc ça peut être la littérature caribéenne, ça peut être la philosophie qui a un placement politique un peu international, ça peut être la littérature noire, ça peut être les musiques rares, c'est aussi, pour ce qui est de Musaïque, c'est des espèces d'essais musicaux aussi. Enfin, Michel t'en parlera mieux que moi.
D'éviter déjà surtout tout ce qui est notion de barrière, parce que bon, ça, on en crève dans tous les domaines, et c'est vrai qu'à FPP, on est là pour éviter tous ces schémas-là, quoi.
Éviter les cloisonnements, oui.
Donc, faut écouter Fréquence Paris Pluriel pour savoir.
Et on va donc écouter quelques extraits.
Voilà, pour conclure.
Yeah, my name is Dennis Al Capone. When I'm in Paris, I listen to one radio station only, Reggae Remedy.
This is Screaming Jay Hawkins talking to you. Turn your radio dial to 106.3 FM Musique on FPP. Ah! Don't touch it no more. Leave it there, Martin. Midi, Aprimidi, C-Swap. Because this is the station in this nation that's going to put down the greatest sounds you ever heard in this town. That's 106.3 FM on your dial. Musée on FPP. Thank you! Goodbye!
La vieille convention que le plus, c'était le mieux. Ça marche plus. Hier, on disait deux quintaux de blé, ça fait plus de bien-être qu'un quintal de blé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez deux fois plus d'automobiles, ça fait plus de bien-être que deux fois moins d'automobiles? Vous voyez, alors, on voit apparaître ici la question de la finalité. Produire plus d'automobiles, oui, mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour servir quels besoins? Quelles vont être les conséquences? Alors, vous voyez, d'un côté, réapparition de la planète, de l'autre côté, réapparition de la finalité humaine. Et je crois que l'une des grosses différences de mon approche par rapport aux approches traditionnelles, elle est là. C'est que moi, je suis condamné à réintégrer la nature et l'homme, c'est-à-dire, en gros, le vivant.
Radio Emba 00.0.
Hoy será un día largamente recordado en la historia del mundo moderno.
Un salto a las ondas hercianas, impulsados por la catapulta de un transmisor solar, descargando implacables dosis de de realidad ambiental con la acústica transformada en arte de conciencia. La voz de los
Radio Bemba 107.5, la radio